France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbeau.
Nous sommes à l'âge de pierre.
Pierre ?
Présent.
Waouh ! Elle est bien, cette peau de bête. Tu l'as trouvée où ?
Sur une bête.
Bientôt, nous allons voir apparaître l'homme du Néandertal.
Parce que moi, les hommes préhistoriques, ils me font pas peur.
Lorsque Néandertal a été exhumé les premières fois, il a été grandement dévalorisé. On lui a prêté des traits archaïques et simiesques malgré son encéphale volumineux et sa capacité à créer des outils complexes. Cette idée d'un Néandertal brutal et sans compétences particulières est finalement en phase avec une certaine époque qui voulait discréditer tout ce qui ne lui ressemblait pas et où l'évolution n'avait pas encore fait totalement son chemin. Pourtant, cette autre humanité maniait le feu, dessinait les caves et enterrait ses morts. Il a fallu du temps avant que les Néandertaliens soient progressivement réhabilités et acceptés tant dans leur appartenance à la lignée humaine que dans leur distinction avec Homo sapiens. L'essor de la génétique a même permis de révéler au grand jour une rencontre entre nos deux espèces. Comment les premiers vestiges néandertaliens ont-ils été interprétés ? Comment ont-ils bousculé notre représentation du genre humain ? Comment Néandertal a-t-il changé le monde ? Et pour explorer cette histoire tout à fait humaine, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Radio France Marilène Patoumatis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, autrice de Néandertal, une autre humanité aux éditions Perrin, et de Néandertal de A à Z, paru aux éditions Talendier, et à distance depuis la Haute-Garonne, Ludovic Slimac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également préhistorien et penseur, auteur de Néandertal nu et du dernier Néandertalien, tous deux publiés chez Odile Jacob. Avant d'en venir aux premières découvertes néandertaliennes, il faut, je pense, faire un petit point de dénomination, de sémantique, sachant que je ne m'attends pas forcément à une réponse unique de votre part. Doit-on parler de Néandertal ou de société néandertalienne, Marilène Patoumatis ? Il est intéressant de noter qu'au cours de nos recherches pour préparer cette émission, il n'est jamais vraiment nommé Homo néandertalensis, contrairement aux autres comme Homo habilis ou Erectus. C'est peut-être même une particularité de Néandertal face aux autres espèces apparentées.
Oui, c'est une espèce de familiarité. Non, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de sortir. Néandertal, pour moi, c'est le squelette qui a été découvert en 1856, dans la vallée de Néandertal. Ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort pour parler des Néandertaliens et Néandertaliennes. C'est-à-dire que ce sont des sociétés très diverses. Qui ont une grande période de vécu et aussi une grande expansion géographique. Donc je pense que, bien sûr, c'est plus facile, tout le monde dit Néandertal, mais pour moi, si vous voulez, je pense qu'il faut le corriger parce que ça donne une espèce d'archétype et il n'y a pas d'archétype. Ce sont des sociétés différentes.
Je vais essayer de le corriger tout au long de l'émission. Ludovic Slimac, même question. Quelle dénomination employer ? Parle-t-on d'une espèce à part, d'une espèce appartenant au genre humain, d'une représentation d'une humanité à part entière ? Là aussi, il me semble qu'il n'y a pas tout à fait un consensus parce que ça dépend un petit peu de ce qu'on veut dire.
Non, en fait, on ne sait pas ce qu'est Néandertal. Il y a une erreur évidente, effectivement, c'est de dire qu'il existerait une société néandertalienne. Il y a autant de sociétés néandertaliennes que de sociétés sapiens, c'est-à-dire qu'il faut distinguer le biologique, donc il y a des corps néandertaliens, et ces humanités-là ont de nombreuses cultures, de nombreuses manières de faire, et ont vécu sur 300 millénaires, sur une grande partie de l'Eurasie, et donc effectivement il y a de nombreuses cultures, mais on ne peut pas parler d'une société ou d'une culture néandertalienne, pas plus qu'on pourrait parler d'une culture ou d'une société sapiens. Il y a de très nombreuses cultures, de très nombreuses sociétés, de très nombreuses langues, et c'était évidemment vrai pour les autres humanités.
On va essayer d'embrasser cette diversité. Venons-en à la toute première découverte identifiée comme telle en août 1856, près de Düsseldorf, dans la vallée de Néander en Allemagne. Des ouvriers qui exploitent une carrière de calcaire à proximité découvrent des ossements dans une cavité. C'est le premier reste qu'on dit médiatisé de Néandertalien. Quels sont ces vestiges exactement, Marilène Patoumatis ? Qu'est-ce qu'ils découvrent ?
C'est-à-dire qu'au départ, c'est vrai qu'on est un peu fixé sur le crâne, mais en réalité, il y a plein de restes d'os longs, des fémurs, etc. Mais ce qui est intéressant au départ, c'est que c'est pas du tout considéré comme un humain. Au départ, on dit, tiens, c'est des restes d'ours, parce qu'on trouve beaucoup de restes d'ursidés dans des grottes. Et ils ont dit, tiens, c'est des restes d'ours. Puis alors, ils ont montré un instituteur du village et tout. Non, en fin de compte, pas du tout. C'est des restes. Mais après, c'est un vrai débat de savoir à qui ça appartient. Et il faut remettre dans le contexte de l'époque. Dans le contexte, comme aurait dit la Palice, on est avant 1859. C'est-à-dire qu'on est avant que prenne corps et soit aussi acceptée la théorie de l'évolution. Donc là, c'est inconcevable pour la majorité des gens qu'il y ait des ancêtres aux humains, qu'il y ait des vieux humains, c'est pas possible. Donc forcément qu'on va le considérer comme un sapiens, un moderne, si j'ose dire, qui est débile, qui est déformé, qui est rachitique. On parle même de Cosaque, égaré. Enfin bon, on a tout un tas comme ça de folklorique, de dénominations. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va cheminer. C'est-à-dire qu'au départ, on est plutôt dans une vision de créationniste. Donc il y a pas du tout d'envisager que ça puisse être un entêtement. Donc il va y avoir beaucoup de débats. Certains, par contre, il va y avoir les deux écoles. D'autres qui vont dire vraiment si c'est un humain ancien, et d'autres qui vont dire non, ils vont de l'autre côté. Si je veux. Et ça va une bataille qui va durer assez longtemps avant qu'on reconnaisse vraiment que c'est un homme ancien.
On va y venir progressivement. Ludovic Slimak, anatomiquement, qu'est-ce qu'on voit sur ces os, ces fragments d'eau? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Et si on voit très rapidement, en fait, et très clairement, que ce n'est pas un sapiens?
Alors, ce qu'on en voit, c'est d'abord le regard qu'on a à cette époque. Il faut bien comprendre que dans ces années 50, la conception de l'humain, de l'humanité, n'est pas du tout la conception et le regard qu'on peut avoir aujourd'hui. En 1855, il y a un livre qui sort, qui était très très important à l'époque, qui s'appelait « Essai sur l'inégalité des races », et où on considérait les humanités morphologiques, très, très généraux, et qu'on mélangeait d'ailleurs avec du culturel ou du social, et on classait ainsi les humains. Et évidemment, on ne peut pas comprendre Néandertal si on ne comprend pas vraiment ce qu'est ce 19e siècle et ce regard sur l'humanité. Et donc, en fait, Néandertal le Néandertal des années 1850 n'est pas le Néandertal d'aujourd'hui, et surtout c'est la société, notre société européenne qui n'est plus la même, et le regard sur ce qu'est l'humanité qui a totalement évolué. Donc, à la limite, ce qu'on a trouvé à cette époque-là avec Néandertal, c'est des ossements, et ces ossements ont généré les fantasmes de cette époque et les regards que Marilyn vient de soulever, et qui ne nous permettent pas en soi de comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut essayer de faire dire, quand on se place, nous, aujourd'hui, qu'on parle du 19e siècle et qu'on parle de Néandertal, on est confronté à une double altérité. C'est-à-dire qu'il y a l'altérité néandertalienne, une autre humanité, et il y a l'altérité du 19e siècle. Entre les années 1850 et aujourd'hui, 2024, il y a un saut dans le temps et un saut culturel qui est extrêmement important. La manière de concevoir le monde des années 1850 est extrêmement exotique en réalité par rapport à notre manière de concevoir le monde. Et comme cet exotisme-là ne nous est pas directement perceptible, parce que effectivement, on se dit c'est nous, c'est nos regards, et en fait, c'est pas du tout nos regards. Et effectivement, quand eux vont trouver des ossements, ils vont avoir les réflexions d'une personne des années 1850, et effectivement, les imaginaires ne sont pas les mêmes, la manière de concevoir le monde n'est pas la même. Donc c'est vrai que ça demande une sorte de double gymnastique. C'est déjà très compliqué de se confronter à Néandertal, mais en plus de se dire, il faut maintenant que je me projette sur le regard d'une personne qui a 170 ans, et là, ça devient presque impossible, ou en tout cas, c'est vrai que il faut se projeter dans les idées, dans les sociétés, et il faut garder en tête que l'Allemagne et la France des années 1856 est quelque chose de très éloigné de nos propres conceptions d'aujourd'hui.
C'est l'enjeu de l'interprétation, on va y revenir. Pour replacer un petit peu le contexte scientifique du moment, Marilyn Patoumatis, on est d'accord que la paléo-anthropologie en tant que telle n'existe pas encore. Il n'y a pas de lignée humaine, vous l'avez dit, on est en 56, donc on est juste avant l'évolution des espèces, mais on n'a pas encore découvert même de sapiens, d'hommes préhistoriques à ce moment-là.
Non, mais ce qui est très important, surtout, c'est de voir, comme le disait Ludovic, c'est-à-dire que, en fin de compte, là, nous sommes dans ce siècle où il va y avoir ce qu'on a appelé le racialisme, hein, c'est-à-dire qu'on va faire des races. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'anthropologie, par contre, se développe énormément, et c'est surtout l'anthropologie physique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a
des caractères morphologiques.
Exactement, c'est-à-dire qu'on va faire plein de mesures. C'est comme ça, vous savez, on va mettre un curseur qui s'appelle le grand singe, et on va faire ces mesures, par exemple le prognathisme, etc. Et on va le comparer sur tous les êtres contemporains, là je parle. Et puis on va dire, bah, c'est plus proche ou moins proche, on va faire l'échelle des êtres humains, et donc des inférieurs. Moi qui ai vécu chez les saints du Kalahari, bah, non, là, c'était inférieur, les inférieurs avec les aborigènes.
Un exemple de chasseur-cueilleur.
Voilà, justement. Et aller jusque, bien sûr, au blanc occidental. La femme toujours un peu en dessous, mais enfin, ça, c'est une autre question. et donc, on est dans cette vision. Et ça, c'est très important de le resituer. Parce que c'est vrai que là, tout de suite, ces notions pour nous qui nous font bondir sur les d'infériorité, de côté primitif, de côté ancien. Parce que ce qui va se passer très vite, c'est qu'on va comparer aussi les découvertes qu'il va y avoir de sites néandertaliens. On va les comparer, les outils trouvés avec ce que taillent, par exemple, les aborigènes d'Australie. On va dire qu'il y a un rapprochement. Donc, vous voyez, on va commencer à mélanger un peu tout ça. Et c'est le regard de l'époque. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on va classer aussi les fossiles. Et évidemment, il est inférieur. Heureusement, à un moment donné, il y a le pithécanthrope qui vient sauver les néandertaliens. Comme ça, ils montent d'un cran. Mais on est dans ce contexte. Et c'est pour ça que c'est quand même aussi vraiment difficile, si vous voulez, de rester très seulement critique en disant « Oh là là, mais ils n'ont pas perçu que ceci, cela. » Non, mais on est, comme il disait Ludovic, on est vraiment dans un siècle différent et qui a une idéologie très forte. Alors, pour revenir aux méthodes, donc l'anthropologie physique, oui, est très importante, même depuis la médecine avec Pierre Cabanis à la fin du 18e siècle. Donc, tout ça va être utilisé très vite. Et donc, on va faire ces mesures sur les fossiles aussi qu'on va trouver. Donc, et là, on va justement tomber dans cette idéologie, c'est-à-dire de la hiérarchisation. C'est-à-dire que nous, scientifiques, on a besoin de nommer, de dénommer, de classer, de faire des catégories. C'est pas gênant. Mais par contre, ce qui va être terrible, et d'ailleurs, ça commence ici, à mon avis, au 18e, avec la classification zoologique, de l'inné en particulier, on va hiérarchiser. Et c'est là où, si vous voulez, le mal s'enracine.
Et ce qui est intéressant également, c'est que les restes dont on vient de parler de 1856 ne sont pas en fait les tout premiers restes néandertaliens. Ludovic Slimak, il y a au moins deux autres vestiges qui ont été découverts un peu plus tôt, deux crânes, un en Belgique à Angis, j'espère bien le prononcer, en 1829 et en 1848 à Gibraltar. Pourquoi est-ce que ces restes-là passent inaperçus, Ludovic Slimak ?
Alors, d'abord, effectivement, on s'attendait pas à trouver ce genre d'altérité. Et ensuite, la découverte de Belgique à Angis, c'était le crâne d'un enfant. Et les traits morphologiques des enfants néandertaliens sont très peu accusés. Donc, on peut pas vraiment reconnaître comme ça, à cette époque-là, sur la base d'un crâne d'enfant dans lequel les traits vraiment néandertaliens ne sont pas marqués, n'apparaissent pas sur ces ossements et sur ce crâne. Et sur la découverte de Gibraltar, en 1848, j'ai eu le crâne entre les mains, et c'est vrai que les traits néandertaliens sur ce spécimen-là ne sont pas morphologiquement très accusés. Et d'ailleurs, Darwin l'a eu entre les mains et n'avait pas été particulièrement choqué. Il voit des particularités, mais effectivement, c'est pas très choquant. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on va considérer par la suite que ce néandertalien est un néandertalien. Ce crâne est une femme. D'ailleurs, on sait aujourd'hui est une néandertalienne ancienne. Et en fait, plus on est vieux dans le temps, et moins les traits néandertaliens sont accusés. On sait aussi aujourd'hui qu'en réalité, ce crâne-là est certainement un néandertalien récent, mais dont les traits sont peu accusés. Pourquoi ? Ben, là, c'est encore une autre question. Il y a certainement une variabilité et une diversité des populations génétiques chez les néandertaliens qui commencent seulement à être perçues et sur lequel, effectivement, l'image qu'on peut avoir du néandertalien, c'est effectivement ces populations continentales européennes qu'on va avoir du sud-ouest de la France jusqu'à l'Allemagne, mais qui ne sont pas nécessairement caractéristiques de tous les néandertaliens, en particulier ben, là, dans les zones méditerranéennes, du côté de Gibraltar ou du côté même du Levant méditerranéen, mais là avec des populations plus anciennes qui vont avoir entre 80 et 120 000 ans, les traits sont pas si accusés que ça ou peuvent être difficiles à distinguer d'un Homo sapiens ancien.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
comprendre la construction de notre vision des Néandertaliens, il faut saisir l'apport, je fais attention que je cite Néandertalien sous votre regard Marie-Laine, de saisir l'apport des premiers fossiles. Et l'année 1866 est une année assez fructueuse avec deux découvertes. La grotte de Nolette avec une mandibule et la grotte de Spie avec des ossements. Spie est certainement la plus connue des deux, on va y venir, mais la mandibule, l'os de la mâchoire, apporte déjà un élément supplémentaire avec un nom connu, Paul Broca. Marie-Laine Patoumatis, quel va être son apport et quelle est l'importance un petit peu de cette nouvelle découverte? Est-ce qu'elle est répandue et médiatisée également?
C'est-à-dire que la découverte est intéressante parce que la mandibule est très bien conservée et aussi parce que bon, Broca, c'est quand même un nom qui est connu, qui est célèbre de son époque,
qui est reconnu. Broca, qui voilà. Est justement anatomiste,
exactement.
Qui a identifié des airs, et notamment l'air du langage.
Bien sûr, avec les airs de Broca. Il y a Wernicke et Broca. Mais donc, ce qui est important, c'est l'étude donc, qui va être faite, et qui va, là aussi, tout à l'heure on en parlait, va rentrer quand même dans cette hiérarchisation. C'est-à-dire que là, on va dire, par exemple, qu'elle est quand même avec des tendances modernes, mais elle a aussi des tendances anciennes. On va même parler de cannibalisme. C'est ça aussi Nolette, le trou, voilà. Parce que ça va être aussi un départ de discussion sur le fait qu'il soit cannibale ou pas cannibale. Ça va faire partie, il n'y a pas que ces restes-là, mais c'est important parce que c'est très ancien.
Et le cannibalisme, on imagine, dans l'interprétation,
voilà.
Ça mais
oui,
un rôle
parce que vous
énorme.
Savez, pourquoi, comment à l'époque, comment on perçoit, mais même pas jusqu'à l'époque, je peux vous dire jusqu'au XXe siècle, même pour certains
bon,
aujourd'hui.
Pour certains aujourd'hui.
Comment on dit pour être inférieur, il faut quoi? Ne pas avoir le langage articulé, être un charognard. Parce que moi, je me suis beaucoup battue contre les Binford qui disaient qu'avant Sapiens, il n'y avait pas de chasseurs. C'était tous des charognards. C'était évidemment le cannibalisme, parce qu'on fait référence là aussi à cette vision de primitive, de barbare des peuples lointains. Hein. Et donc là, ça faisait partie de ça. Et puis, bien sûr, Spie, ça c'est très important, parce que là, ça va être le grand débat sur est-ce que c'est humain, nous on les appelle comme ça, mais est-ce qu'ils enterraient ou pas leurs morts? Alors là, ça va être un autre sujet, parce que, évidemment, enterrer ses morts, ça a une signification. C'est la prise de conscience, etc., d'une différence par rapport aux autres espèces. Enfin, il y a toute une plein de raisons, si vous voulez, qui montrent qu'il y a ce côté symbolique aussi derrière des comportements. Et là, évidemment, ça fait grand débat, parce que là, beaucoup vont dire non, ce n'est pas possible, des hommes comme ça, si différents, etc., ne peuvent pas enterrer leur mort. Donc, ça va être un grand sujet. On aura la même chose quelques années après avec l'art, où on va beaucoup débattre. Mais ça fait partie de ces réflexions. Donc, c'est pour ça qu'ils sont importants. C'est pas que je veux prêcher pour les Néandertaliens, absolument, mais si, ils sont assez fantastiques, parce qu'ils sont dans cette histoire-là aussi, qui remet en cause beaucoup de choses, et de catégoriser comme ça des humains ou des anciens humains avec les critères justement que nous on choisit pour dire ça c'est primitif, ça c'est moderne, là on est en plein dedans.
L'enjeu aussi pour la grotte de Spie, Ludovic Slimak, c'est aussi, il me semble, la découverte d'une première industrie lithique, c'est-à-dire des outils. Quels outils on trouve dans cette grotte de Spie? Et puis plus largement, quelle importance de trouver des outils et qu'est-ce que ça veut dire potentiellement de la capacité cognitive de ces individus à ce moment-là, quand on est encore au milieu du 19e?
Oui, c'est la première fois vraiment qu'on peut faire une sorte de pont entre ces vestiges, ces squelettes et des silex. Et donc là, on commence à faire des rapprochements, mais ces rapprochements vont pas être immédiats. D'ailleurs, même la notion de ces types de silex qui vont être appelés par la suite le moustérien.
On en reparlera en détail, oui, absolument.
Voilà. Cette notion n'existe pas, elle va être créée plus tard en 1869 par Gabriel de Mortillé. Mais on voit qu'il y a une association avec des silex, et donc là c'est quelque chose d'important, et c'est effectivement on n'avait pas ça avec Néander. Après c'est vrai que la notion de... On est toujours dans la représentation et cette notion, Marie-Laine parlait du cannibalisme, c'est compliqué parce que quelle était la représentation du cannibalisme au XIXe siècle? On a un texte de 1871 d'une personne qui a fouillé une grotte qui s'appelle la grotte de Néron. Vous voyez, 1871, 1869, on crée le terme de moustérien, donc c'est les cultures, la manière de tailler le silex de ces Néandertaliens. En 71, on a un texte d'une personne qui a fouillé une grotte dans la vallée du Rhône, la grotte de Néron. Et ce baron, le baron de Lubac, dit « Les hommes du moustier
donc le moustérien a été créé 2 ans auparavant, donc, et il dit les hommes du moustier ne peuvent pas être assez civilisés pour avoir été cannibales. Et donc il associe la notion de cannibalisme avec une notion de sophistication et d'une notion dans laquelle il voit et il comprend qu'on est face à quelque chose de complexe et de ritualisé et qui n'est pas nécessairement justement une notion aussi barbare que celle qu'on pourrait imaginer dans les mots du 19e siècle. Mais là, on est à nouveau confronté à notre double altérité, celle de Néandertal et celle du regard des hommes du 19e. Et c'est vrai que d'un côté, le sauvage absolu, c'est le cannibale, et on va le projeter dans les Amériques, en Afrique, partout. Et d'un autre côté, on reconnaît en même temps à ce cannibalisme un certain degré de sophistication et une réalité comme quelque chose de complexe et qui est trop complexe pour être associé à ces hommes du moustier.
Et la découverte qui va cristalliser justement pendant longtemps l'image qu'on se fait des Néandertaliens, c'est celle de la chapelle au sein. En Corrèze, en 1908, les abbés Buissonni et Bardon sont à l'origine de la trouvaille, mais c'est l'interprétation de Marcelin Boule qui va rester dans les mémoires. Ce paléontologue et géologue décrit cette découverte, une lecture de Sophie-Catherine Gallet.
Caractères généraux. Cette tête frappe d'abord par ses dimensions très considérables, en égard surtout à la faible taille de son ancien possesseur, moins de 1,60 m, comme on le verra plus loin. Elle frappe ensuite par son aspect bestial, ou pour mieux dire, par tout un ensemble de caractères pithécoïdes. Le crâne, de forme allongée, est très surbaissé. Les arcades sourcilières sont énormes. Le front est très fuyant. La région occipitale est saillante et déprimée. La face, longue, présente un prognatisme considérable. Les orbites sont grandes et saillantes. Le nez, séparé du front par une profonde dépression, est court et très large. Le maxillaire supérieur, au lieu de se creuser au-dessus des orbites d'une fosse canine, plus ou moins profonde comme chez toutes les races humaines actuelles, se projette en avant, tout d'une venue, pour former dans le prolongement des os malaires une sorte de museau, sans aucune dépression. La voûte palatine est très vaste. Le mandibule est remarquable par la forte épaisseur du corps de l'os, la grande largeur de sa branche montante, l'obliquité de sa symphyse, l'absence de menton. Il n'est pas douteux que cette tête et les os qui l'accompagnaient aient fait partie d'un même squelette, celui d'un individu du sexe masculin, dont il est difficile de préciser l'âge. La perte d'un grand nombre de dents, l'atrophie des bords alvéolaires, surtout à la mâchoire inférieure, lui donne une apparence sénile, peut-être trompeuse, comme on le verra tout à l'heure. L'état des sutures crâniennes fournit un élément d'évaluation qui n'est pas très précis. Je pense toutefois que notre homme est mort à l'âge de 50 à 55 ans. Il n'était donc qu'au seuil de la vieillesse.
Nous sommes au tout début du XXe siècle. Cette vision d'un individu assez archaïque va perdurer. Comment est-ce qu'on explique? Est-ce que vraiment cette découverte et Marcelin Boule a un rôle primordial en fait dans la propagation, cette idée d'un individu bestial et pithécoïde, Marie-Lène Barthes-Mathis?
Oui, Marcelin Boule, là aussi, c'est quelqu'un de très célèbre, de très reconnu.
Il était déjà reconnu avant ce
tout à fait, et qui d'ailleurs va être à l'Institut de paléontologie humaine où j'ai mon labo. Il y a le premier qui a dirigé l'INCT, Marcelin Boule. Donc, il est très reconnu. C'est un paléontologue d'ailleurs qui est très compétent. Il faut quand même le noter. Même là, bon, il y a des erreurs parce que le crâne aussi, il n'est pas très bien conservé au départ quand même. Il faut le reconstituer entre guillemets. Et donc, ce qui va se passer là, c'est que il va accentuer les caractères simiesques. Parce qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai que l'image à l'époque pour beaucoup de ces très anciens humains, ce sont des singes, enfin proches des singes. Et donc là, il va accentuer beaucoup dans sa reconstitution. Je pense que, alors je dis pas qu'il n'aurait pas dit ça sur un crâne très bien conservé, mais je crois qu'il y a quand même eu ça qui a joué. Et c'est vrai qu'il était dans cet esprit là aussi de l'époque, donc de avoir une tendance à rapprocher ça par rapport aux sapiens fossiles, à les on va dire, les rendre un peu plus simiesques, un peu plus différents de nous. Et il est important, Marcelin Boule, parce que aussi quelque part, il a un peu d'autres passages dans son ouvrage sur les hommes fossiles. Il est un peu moins sévère, entre guillemets, si j'ose dire, par rapport aux Néandertaliens. Donc, c'est assez complexe, comme toujours. Mais c'est vrai que il va falloir attendre la reconstitution. Alors là, vraiment, pour pouvoir faire des études de Jean-Louis M, donc un paléanthropologue qui est maintenant décédé, donc il a reconstitué ce qui est présenté d'ailleurs dans le musée de Néandertal à la Chapelle aux Saints.
Et un autre élément qui me semble important sur cette découverte, c'est que l'homme de la Chapelle aux Saints ne présente plus aucune dent, pourtant ses alvéoles sont bouchées, semblerait-il. Cela signifierait qu'il a été aidé pour pouvoir se nourrir, et ça c'est quelque chose aussi d'énorme en fait dans cette question-là.
Oui, non, c'est capital, parce que là aussi, ça fait partie des visions qu'on peut avoir de ces lointains ancêtres, que non seulement ils étaient violents, cannibales, avec notre regard, comme disait tout à fait justement Ludovic, avec notre regard mondial. Et là, en plus, ça veut dire qu'ils n'auraient pas entretenu, si j'ose dire, une espèce de solidarité. Bah si, on a plein d'exemples, d'ailleurs, on en a beaucoup, qui montrent qu'il y a vraiment une solidarité, on aide les personnes handicapées, hein, on va pas les exterminer, on va pas les tuer. On les nourrit, celui qui peut pas se nourrir tout seul, on le nourrit. Donc il meurt pas, si vous voulez, certaines blessures et tout vont pas mourir de ça, ils sont soignés. On n'a pas le temps de parler de tout, mais maintenant on sait qu'il y avait des plantes médicinales, etc. Donc vous voyez, c'était très important justement ces découvertes-là. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y en a de plus en plus actuellement avec des nouvelles méthodes d'investigation. On a un autre regard aussi parce que on a tous ces aspects, disons, de moyens modernes qui nous mettent en évidence qu'il y avait vraiment des comportements tout à fait différents de l'imaginaire, parce qu'on est dans l'imaginaire souvent.
Donc déjà là, on a une idée des rites funéraires, on a une idée des outils et on a une idée de l'aide. Comment va-t-on passer d'un néandertalien brut épaisse à une espèce douée de nombreuses compétences, potentiellement assez semblable à l'espèce humaine tout en ayant sa propre culture? Comment se déroule la lente réhabilitation de Néandertal? C'est notre programme juste après ça.
Pauvre homme de Cro-Magnon. Il avait pas la télé couleur, et encore moins d'ordinateur. Quand il cliquait sur une souris avec son gros doigt, celle-ci poussait un dernier cri, et puis finit. Pauvre homme de Cro-Magnon. Il allait gourdin à la main, chasser l'ancêtre du lapin, souvent pour rien car le lapin de Cro-Magnon lui posait toujours des lapins. Pauvre homme de Cro-Magnon. L'avait pas inventé le fil à couper le beurre, ni même l'eau chaude d'ailleurs. Quand il courait dans sa peau de bête, on entendait rouler un pois chiche dans sa tête. Pauvre homme de Cro-Magnon. La tapisserie n'existait pas, alors pour égayer tout ça, au fond de sa caverne il dessinait des gazelles avec un niveau de première année de maternelle. Pauvre homme de Cro-Magnon. C'était pas la joie dans son clan, ça rigolait pas très souvent, et quand c'était l'âge de Pierre, on fêtait pas son anniversaire, c'est triste pour Pierre. Pauvre homme de Cro-Magnon. Quant à la femme de Cro-Magnon, quant à la femme de Cro-Magnon, j'ai une photo d'elle dans mon portefeuille, si vous voulez y jeter un œil. Fais voir. Pauvre homme de Cro-Magnon.
Pauvre homme de Cro-Magnon de Pascal Parizeau sur France Culture. Nous consacrons cette émission à la découverte de Néandertal en compagnie de Marlène Patou-Matisse, préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, autrice de Néandertal, une autre humanité aux éditions Perrin, et de Néandertal de A à Z, paru aux éditions Talendier, et à distance toujours depuis la Haute-Garonne, Ludovic Slimak, qui est préhistorien également et penseur, auteur de Néandertal nu et du dernier Néandertalien, tout 2 publiés chez Odile Jacob. Nous avons commencé à aborder les premières découvertes de Néandertal, une anatomie distincte et des caractères qualifiés d'archaïques, avec des traces de rites funéraires, d'aide à ses congénères et d'outils. Mais avant de commencer la lente réhabilitation et ce qu'on sait vraiment de lui, j'aimerais qu'on aborde un peu la question de la méthodologie expérimentale et de son évolution. Ludovic Slimak, on a commencé un petit peu à en parler, mais au départ, un des seuls outils en fait de l'archéologue, du paléontologue, du paléoanthropologue, du préhistorien, c'est l'os et la pierre, deux éléments qui bien sûr perdurent dans le temps, mais qui sont finalement une toute petite partie de la vie d'un individu et de sa communauté.
Oui, une toute petite partie et en même temps des éléments qui sont importants. Enfin, ce sont des outils qu'on peut développer à partir de ces éléments qui vont nous permettre vraiment de rentrer dans de tenter de percer ce mystère néandertalien. Quand on a du silex, bon, quand on a un os, ben on a un os, mais on a aussi beaucoup de choses dans l'os. On a des isotopes, aujourd'hui on a de l'ADN, et donc on développe de nombreux regards à partir de ça, et pas simplement les morphologies osseuses. Et quand on a du silex, et on en a, on a des archives extraordinaires, parce qu'on est face à des millions de très très grandes quantités d'objets abandonnés par ces populations. Et ces éléments-là sont très très riches, parce que c'est pas simplement des objets comme on aurait par exemple un couteau romain ou gallo-romain ou une épée ou je ne sais pas quoi. On va avoir un élément d'abord rouillé, très altéré, et puis on va avoir juste l'objet. Alors que quand on va avoir l'équivalent, un couteau de silex, eh bien d'abord il va être généralement très bien conservé, exactement dans le même état, alors que de la manière, enfin, il ressemble exactement à l'objet que l'homme a façonné, il ne va pas s'altérer comme du fer, il ne va pas disparaître, et ensuite, il va surtout, on va pouvoir le lire, on peut lire un silex comme on lit un livre, et donc on va pouvoir avoir une lecture de tous les enchaînements de gestes de l'artisan. Alors bien sûr, dans le passé, quand on remonte au 19e siècle, on fait pas ça, on voit l'objet, on voit ses formes, mais c'est des objets très bien conservés, et effectivement, très rapidement quand même, on voit une sorte d'évolution et on voit des éléments. Alors au départ c'est très fruste, on dit regardez, d'abord il y a le chélien, ils font des très gros objets et puis ça devient plus fin et c'est l'homme du moustier, donc ce que ferait Néandertal, et puis après vient Sapiens. Et donc on a comme ça une sorte de vision linéaire, mais qui effectivement reflète le regard du temps. Et aujourd'hui, ce sont des objets d'études qui sont source de très très grandes informations et qui peuvent permettre d'aller très loin et d'aller dans la tête de l'artisan et de reconstituer sa manière de concevoir le monde et de son rapport à l'objet et à la nature.
Une autre question aussi sur la méthodologie. Toute la question de la vie de Néandertal et même de Sapiens dans les temps aussi reculés repose finalement, on l'a dit un petit peu, sur l'interprétation, sur certaines hypothèses, d'abord très maigres, puis qui s'épaississent avec la découverte de nouvelles fouilles, ou au contraire qui s'évanouissent, on l'imagine, et deviennent obsolètes. Marianne Patoumatis, on avance toujours à tâtons dans toutes les sciences, mais est-ce que c'est finalement presque encore plus vrai dans celle-ci, dans cette discipline ?
Je suis pas forcément convaincue, parce que quand même maintenant on a d'abord beaucoup 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 de vestiges, et puis les méthodes c'est incroyable. Je veux dire là, on peut faire des tas de choses. Alors moi qui suis sur des ours d'animaux, mais quand même des ours intéressants. Et là c'est important, on fait parler les ours. Moi c'est quand j'ai mes étudiants, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut faire parler les ours. Ça veut dire quoi? C'est pas simplement un slogan. C'est simplement qu'il faut apprendre à lire ce que disent des ossements. Pas seulement de dire ça, c'est un os de mammouth ou c'est un os de renne. Il faut aller plus loin. Donc, on a développé plein de méthodes depuis maintenant des dizaines d'années. Des méthodes pour vraiment savoir les marques qu'il y a sur ces ossements. Qu'est-ce qu'elles indiquent? Déjà, on va faire un premier tri. C'est ce qu'on appelle la taphonomie. Hein. On va faire un premier tri pour garder, nous, ce qui nous intéresse là, puisqu'on s'intéresse au comportement des Néandertaliens ou quels que soient les humains fossiles. On va donc éliminer tout ce qui est carnivore, etc. Parce qu'il n'y a pas que l'homme qui joue sur ces sites. Hein. Il y a un gros travail aussi de savoir, d'enlever tout ce qui n'est pas forcément le résultat de comportement humain. Ça, c'est vraiment important. Il y a eu beaucoup d'erreurs à cause de ça. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il faut faire parler. Et on va étudier les marques. Et c'est très riche d'enseignement. On peut trouver des traces de projectiles. C'est assez rare, mais on peut en trouver. On peut... C'est plutôt, d'ailleurs, avec les civilisations sapiens. Et on peut aussi trouver les gestes du boucher, reconstituer le dépeçage, voir ce qui a été utilisé dans l'animal, de comprendre qu'en fin de compte, dans plein de sites, on a une évidence que les Néandertaliens percevaient les animaux comme un ensemble de ressources, pas seulement pour manger, mais aussi pour se vêtir, pour faire des outils, pour faire plein de choses. Donc l'animal, déjà, et ça c'est très important au niveau de la cognition et tout. Donc on, c'est à partir de ces ossements, de ces observations. Donc il n'y a pas quand même que de l'interprétation. Bien sûr qu'on ne va pas pouvoir reconstituer dans les choses de détail, savoir les vêtements, comment ils étaient, tout ça. Après, ça devient...
Tout ce qui mais en se tout cas, détruit,
une trace,
en fait.
Voilà, une trace de dépouillement. Nous, on le voit sur les ossements, quand, pas toujours, malheureusement, c'est pas quand même toujours très bien conservé, mais quand on peut, on le voit. Donc, on sait qu'il y a, par exemple, utilisation des peaux de bison, des peaux d'âne, pour faire des vêtements, par exemple.
Donc, maintenant, on a plein d'informations.
Ou pour faire des couvertures, enfin, en tout cas, donc, on a plein, quand même, d'indices. Donc, je crois qu'il faut, bien sûr, être toujours dans le toujours remettre, pas être
penser
sûr et tout,
soi.
Parce que voilà, faut pas être prétentieux, si j'ose dire, dans son... Mais quand même, il faut pas non plus être trop réducteur. Donc, il faut... Maintenant, je pense qu'on peut, bien sûr, toujours prudence, mais on a quand même de plus en plus d'éléments qui nous donnent, qui ouvrent des petites fenêtres sur des comportements qui étaient jusqu'à maintenant inaccessibles.
Et entrons maintenant dans la lente réhabilitation. Ludovic Slimak, comment cette lente réhabilitation de Néandertal, est-ce que c'est des renversements, un chamboulement avec des découvertes particulières, ou est-ce que c'est finalement progressif, assez petit à petit, au fil des découvertes, et en fait on perçoit finalement une autre vision parce que la société change, elle aussi, pendant le XXe siècle.
Ben déjà, il y a notre propre histoire, et effectivement, le XXe siècle est marqué par une histoire très dure, terrible, et cette classification des races et l'inégalité des races va monter depuis effectivement les écrits du XIXe siècle jusqu'à un siècle plus tard, à nous amener à la Deuxième Guerre mondiale, et à la logique de ces classifications et de ces hiérarchisations des races, qu'elles soient anciennes et passées, ou qu'elles soient les races de ce qu'on appelle des races à l'époque, qui sont toutes les populations sur Terre. Et donc on va les hiérarchiser, et ça va nous mener à cette logique ultime de mettre des gens dans des fours et de détruire des populations, en les considérant comme inférieurs et en considérant qu'il y a des races supérieures. Et donc il y a cette rupture qui est là. On est allé au bout de nos logiques et on se trouve face à, après 45, face à le monde du 19e siècle qui a commencé à s'effondrer en 14, mais là s'effondre vraiment après 45. D'un coup, on est confronté à beaucoup de choses, à nos regards sur les colonisations, à nos regards sur l'humanité, à nos refus de la différence et à l'horreur. On a connu l'horreur totale, une horreur inimaginable qui relève plus de l'humain. On est sorti du cadre de ce que toute population sur Terre peut considérer l'humain en mettant des populations entières dans des fours. À partir de ce moment-là, le regard des populations va connaître une rupture profonde. Et on ne hiérarchise plus. On comprend qu'on ne peut pas hiérarchiser et qu'on doit se confronter à la différence avec un nouveau regard. Et ça, c'est l'après 45. Et bien sûr, le regard de Néandertal est affecté par ça. On voit déjà quand même, au milieu du 19e siècle, dès 1939, avant la guerre mondiale, on a cette image du Néandertalien dans le métro, c'est 1939. Donc on a des représentations qui sont publiées par Carlton Kuhn qui montre un Néandertalien avec un costume trois pièces, un chapeau new-yorkais, et qui dit on ferait pas la différence avec un sapiens. Donc la réhabilitation, c'est un processus d'abord avec un moment de rupture, mais c'est un processus long qui s'établit sur plus de 80 ans, 85 ans, et qui va connaître une sorte d'apogée, j'allais dire, à partir des années 90, on va rentrer dans des logiques et où là vraiment et pleinement, on va commencer à dire non mais bon, maintenant faut arrêter. Néandertal, quelque part, non seulement à nos capacités, mais quelque part est comme nous. Et là, on va aller très loin dans ce retour de balancier, et on va transposer nos regards. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Une des grandes limites de tout ça, c'est que ce que j'essaie d'expliquer dans tous mes livres, Néandertal nu ou le dernier Néandertalien, ce qui est important, c'est que ces processus, la réhabilitation, c'est un couteau à double tranchant. La réhabilitation, c'est aussi l'assimilation. C'est-à-dire que c'est aussi un développement de ce qu'on faisait entre la première moitié du XXe siècle et le XIXe siècle. Et donc, on est rentré aussi par un retour naturel de balancier dans un regard qui est complexe, puisqu'on ne peut pas avoir le recul qui nous permettrait de comprendre ce à quoi on est confronté. C'est pour ça que moi, je parle pas d'humain, je parle pas d'homme ou de femme de Néandertal, et j'utilise le terme de créature, parce qu'avant tout, c'est nos regards, nos créations, et c'est nous qui créons cette humanité, et il faut faire ce pas de côté pour essayer de comprendre ce à quoi nous sommes confrontés.
Et cette réhabilitation, pendant ces 85 ans, repose aussi sur un certain nombre de découvertes. On a beaucoup parlé de découvertes dans l'ouest de l'Europe depuis le début. Je sais que c'est important pour vous. Des découvertes, en fait, il y en a aussi dans l'Est, il y en a aussi ailleurs,
oui,
en Europe.
Marianne Batmatis. Ce que vient de dire Ludovic, c'est très important, ce regard. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, j'ai vu cette évolution aussi. En fin de compte, quand j'avais sorti Néandertal, une autre humanité, en 2006, je vous assure qu'il y avait des gens ils disent oh là là ça va pas du tout, il y a trop de modernité dans ce Néandertal. Mais j'avais mis une autre humanité, et ça me paraissait important, parce qu'il y avait peut-être c'était nécessaire de dire attendez, arrêtez de dire des sottises sur la taille des outils, tout ça. Mais
vous
par contre,
que c'est des moments,
je suis
en fait
tout à fait d'accord avec Ludovic, c'est-à-dire que il faut faire très attention, parce que c'est ce que je dis. Pourquoi j'ai travaillé beaucoup, de nombreuses années sur les Néandertaliens? Parce que c'est différent. Alors là, je vais peut-être choquer certains, mais moi, j'aime les différences. C'est-à-dire que si c'est pour travailler avec quelque chose qui me ressemble tellement, je vois pas non plus l'intérêt. Donc, quelque part, il y a un fond commun, il y a des choses qu'on retrouve chez les sapiens comme chez les Néandertaliens, mais il y a aussi ces différences. Et quelque part, c'est ça qui est intéressant. Et il faut pas absolument vouloir que les Néandertaliens aient fait absolument tout ce qu'elle faisait sapiens. Ça n'a pas de sens. Ils ont une cosmogonie, ils avaient, et selon les sociétés en plus différentes, des cosmogonies différentes. Donc c'est important de pas là aussi avoir cette vision de dire je pense à l'art en ce moment. Bah pour moi, je veux dire qu'ils fassent pas, qu'ils aillent pas peindre des grands animaux sur les murs, c'est pas un souci. C'est leur, eux, ils ont une autre vision, ils voient d'autres choses. J'ai pas le temps de développer, mais j'ai quelques idées sur ça. Voilà. Et là, c'est très important ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu des dérives, mais c'était nécessaire. Par contre, au départ, on était obligé de peut-être de regarder ça. Alors et là, le côté de l'Europe centrale et orientale me paraît fondamentale, parce que très souvent, le fait qu'on s'arrête, alors là je suis un peu virulente parce que... c'est vraiment agaçant, dans le sens que très souvent, moi ça fait maintenant 30 ans, je fais dans les Néandertaliens, 20 ans que je travaille en Europe centrale et orientale, j'ai fait 15 ans en Crimée, bon malheureusement vous savez la situation de la Crimée, j'ai un petit salut pour mes collègues qui sont en souffrance en ce moment en Ukraine. Et là, il y a des choses qui étaient différentes. Les Néandertaliens, c'est pas la France, c'est pas le sud-ouest de la France, ça va au-delà. Et si on ne regarde pas ailleurs, il y en a en Sibérie, il y en a, voilà. Moi, j'ai travaillé sur Obir Akhmat en Ouzbékistan. Tout ça, c'est différent. Il y a vraiment, et c'est là que ça nous permet de montrer justement qu'il n'y a pas, il y a une grande diversité, et qu'il n'y a pas, je reviens sur ce thème parce qu'on en a fait vraiment un archétype, non. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important d'aller regarder de ce côté-là. En plus, en Crimée, par exemple, avec Victor Chabat et mon collègue, on a mis en évidence que sur les mêmes territoires, donc il y avait à la fois, dans les périodes récentes, des sapiens et des Néandertaliens, on a mis plein de choses en évidence, et très souvent, c'est occulté. Et donc, on a une espèce de vision complètement biaisée à mon avis, sur les sociétés néandertaliennes.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Il y a une importance, en fait, à comprendre la diversité des populations néandertaliennes, finalement. C'est ça ce que vous dites. Venons-en un petit peu plus précisément aux outils. Ludovic Slimak, votre spécialité. Comment Néandertal, lui, au fil de son histoire, les a fait évoluer? Et une autre petite question, est-ce qu'ils sont très différents de ceux d'Homo sapiens? Est-ce que si on les mettait sur une table, est-ce que d'un coup d'œil, bon, vous pourriez dire que c'est très différent, mais est-ce qu'on peut voir simplement qu'effectivement, il y a une culture aussi là de façonnage d'outils qui est aussi très différente?
En fait, ça dépend ce que vous regardez. Si vous vous positionnez au niveau des technologies, des grands savoirs et des grands savoir-faire, ces deux populations ont dans leur histoire les mêmes technologies. Donc on donne des noms, on parle de dans les productions de silex, de débitage discoïde ou Levallois, etc. Donc dans ces grands thèmes-là de manière de réaliser des outils, c'est la même chose, mais maintenant, quand vous les mettez sur une table et que vous allez un petit peu au fond du problème et vous arrêtez pas simplement aux grandes technologies de l'époque, là, d'un coup, ça devient... Il y a des éléments qui, à mon sens, vont distinguer très profondément ces deux populations. Il y a quelque chose de... Bon, je suis tailleur expérimentateur et donc je...
On parlait d'archéologie expérimentale, voilà, justement, vous pouvez rappeler les détails.
Voilà, on peut reproduire dans le silex ce que font les populations. Et je vous dis que quand on prend un objet, on voit toute sa mémoire, toute son histoire, on voit tous les enchaînements de gestes. Et à chaque fois que je prends un outil néandertalien, et j'en ai eu des millions entre les mains, à chaque fois j'ai un moment et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, et je suis dans une sorte de partie d'échec où j'essaie de comprendre ce qu'a fait l'artisan, et c'est toujours chaque objet, même si on est dans une seule strate culturelle, donc on a des milliers d'objets, c'est les mêmes populations, c'est peut-être même les mêmes artisans, et à chaque fois que je prends l'objet, je suis dans cette partie d'échec et je comprends pas de suite et il faut un temps. Et quand je prends un objet sapiens qui est produit sur les mêmes technologies, qui peut avoir 54 000 ans dans la vallée du Rhône ou qui peut avoir 100 000 ans dans la corne de l'Afrique, j'ai fait des prospections en Afrique, en Éthiopie, à Djibouti, donc j'ai été confronté à ces technologies anciennes sapiens, et dès que je prends en fait un de ces objets sapiens qui connaît plein de cultures différentes, comme pour Néandertal, il y a de très nombreuses cultures, chaque objet, en 2 secondes, je comprends immédiatement où va l'artisan. Donc les manières de penser le monde, les représentations de ces populations, même d'il y a 50 000 ans ou 100 000 ans, sont les mêmes que les miennes. Les structures mentales sont les mêmes. Et quand on est face à Néandertal, et quelles que soient ces cultures, c'est à chaque fois quelque chose de très compliqué. Les objets sont très beaux, sont très élégants, sont impressionnants, mais chaque objet est unique. Alors qu'on a des processus de production extrêmement normalisés, de production en série des objets chez Sapiens, même chez les Sapiens anciens. Donc quand on le pose comme ça, non pas simplement les technologies, mais vraiment ce qu'il y a derrière, on a d'un côté des populations qui sont hyper normées et qui vont faire des productions très standardisées, très rapidement, qui sont les populations Sapiens, et de l'autre, on a des populations dans lesquelles les objets sont aussi très beaux, comme pour Sapiens, mais où chaque objet est unique. Et donc, on a un univers de la diversité, et cet univers de la diversité a été perçu, je vais dire, pendant longtemps, comme le fait que c'était, il y avait une forme d'infériorité, alors qu'en fait, on est confronté, c'est là un incroyable paradoxe, on est confronté à une créativité totale. Mais c'est pas une créativité, c'est pas l'artisan qui part sans garde-fou. On a l'impression que l'artisan néandertalien, systématiquement, va rentrer en dialectique avec la matière, avec les roches, donc avec les couleurs, les textures, les formes des roches qu'il va utiliser pour faire ses outils, et en fonction de l'objet, de ces roches naturelles qu'il va avoir entre les mains, il va adapter ses traditions, ses artisans, il est légataire de traditions et de cultures, mais il va adapter son projet artisanal en fonction de la réalité de la roche face à laquelle il est confronté, et donc face aux réalités naturelles. Et donc là, et ça, quelles que soient vraiment les industries néandertaliennes, et donc sur toute l'Europe, à travers le temps, sur des centaines de millénaires, on voit ça.
Et donc on voit cette diversité. Je vous coupe pour qu'on avance un tout petit peu cette question-là. On voit cette diversité et cette filiation culturelle. On arrive finalement à la rencontre, parce que je voudrais en parler, entre Sapiens et les Néandertaliens. L'essor de la génétique notamment a permis de mettre au jour une petite proportion de gènes néandertaliens dans nos populations actuelles. Avant de parler de ce qu'on sait véritablement de cette rencontre et puis évidemment de la disparition de Néandertal, le cinéma s'est forgé sa propre vision.
Voilà.
Les hommes à la face peinte ont peur de moi. Je ne les connais pas. Jeune chef, j'ai aperçu ces mêmes silhouettes fines et élancées à la crête des collines. Mais jamais je n'ai pu les voir d'aussi près. Une femme et un homme pareil à l'autre. Prisonniers, comme moi. La femme porte la vie dans son ventre. Suis-je un monstre, pareil à une de ces bêtes qui ne sortent que la nuit? Pourquoi me rejettent-ils? Je suis seulement différent d'eux.
On entend, voilà, une certaine influence de l'imaginaire collectif. Un extrait de Ao, le dernier Néandertal, réalisé par Jacques Malaterre, sorti en 2010. On entend Marlène Patoumatis, qui a une sorte d'image, alors peut-être incorrecte, mais justement où on voit une sorte d'inversement, où on voit que justement, maintenant, Sapiens est brutal et violent.
Oui, c'est vrai que c'est la tendance actuelle. Alors bon, moi, j'aime pas trop non plus cette nouvelle tendance.
C'est du cinéma, il faut quand même le.
Non, mais même en dehors du cinéma. Non, mais même en dehors, parce qu'actuellement, moi, c'est vrai que je suis confrontée dans beaucoup de mes conférences à des gens qui préfèrent être Néandertal. Je trouve ça aussi bête que de préférer. Voilà, avant, ils préféraient Sapiens, maintenant, ils préfèrent Néandertal. Tout ça, pour moi, est un peu. Ça n'a pas tellement d'intérêt parce qu'on retombe dans cette espèce de hiérarchisation, comme quoi Sapiens serait nul parce qu'il est violent, il n'est pas écologiste, tout ça. Enfin, on entend beaucoup de choses comme ça, qui sont un peu, à mon avis, décalés. Et là, ce que je voulais dire, excusez-moi, ce que je voulais dire sur ça, et c'est très important, je crois, qu'il faut se rendre compte. Pendant très longtemps, on a mis une différence énorme entre eux et nous. Nous,
contemporains.
Contemporains. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé au Proche-Orient, par exemple? Et qu'est-ce qui s'est passé, là, on est en train de discuter, on a des nouveaux articles qui sortent, qu'en Europe, ça serait passé aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, eux, sur place, si j'ose dire, quand les Néandertaliens arrivent vers 120, 130 000 ans au Proche-Orient, il y a déjà des sapiens. Vous comprenez? Il y a déjà des sapiens. Donc, ils vont s'installer, ils vont faire des cultures, enfin, des débitages des outils, etc. Ils vont faire un moustarien dit du Levant, ils vont tuer, moi qui chasse, les chasser les mêmes, aurochs, gazelles et daims, etc. Ils vont enterrer leurs morts tous les deux. Bref, ils sont assez proches. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on pense que les premiers croisements, les plus anciens, se font là. Donc, nous, la différence qu'on a mis entre eux et nous, cette énorme différence. Mais ils ne la voient pas. Puisqu'ils vont aller jusqu'à se croiser, se mélanger. Alors que vous savez très bien, même récemment encore, on en parlait tout à l'heure du 19e et tout jusqu'à récemment, vous savez très bien que le métissage était mal perçu dans beaucoup de sociétés. Et on était là aussi bloqués sur ça. En réalité, eux, ils ont vu sûrement des différences. Mais ce n'était pas infranchissable. C'est-à-dire que... Et là, moi, je me rappelle mon séjour que j'ai fait chez les Sannes, dans le Kalahari, ce qu'on appelle les Bushmen. En fin de compte, ils sont différents. Ils étaient, voilà. Et ça n'empêche pas que ces différences... que ça soit là aussi une possibilité de rencontre, de mélange, de croisement, etc. Donc, je crois que ça, c'est, pour moi, c'est ça qui m'a surtout frappée en 2010, quand le papier est sorti. Comme quoi nous avions des gènes néandertaliens. C'est ça. Je me suis dit, mais bon sang, c'est pas vrai, quoi. Nous, on a mis une énorme différence comme si c'était une barrière infranchissable. Et pas vrai. Et en plus, ça s'est reproduit. C'est populationnel, si nous, on a entre 2 et 4%. Donc voilà, là, je pense que c'est. Et ça, c'est aussi intéressant. Vous voyez, puisque.
L'ADN ait changé totalement une nouvelle fois notre vision.
L'ADN a montré autre chose. Et d'un seul coup, voilà, ce que nous, on pensait impensable. Moi, je me rappelle, je ne dirais pas les noms, mais de paléanthropologues qui disaient c'est absolument impossible. Et en réalité. Et parce qu'on mettait quand même dans nos têtes ça. Et il n'y a pas cette énorme différence, en fin de compte, quelque part. Pour eux, en tout cas, pour eux, il n'y avait pas cette différence.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Ce sera un petit peu les dernières questions. On ne va pas pouvoir parler tout à fait de la disparition et de la totale rencontre entre ces deux espèces. Mais je voudrais vous entendre, Ludovic Slimak, sur notre capacité à questionner cette altérité aujourd'hui. Est-ce que finalement, on commence à trouver une place à Néandertal?
C'est difficile. Bon, dans l'émission, on a été un petit peu méchant avec les gens du 19e siècle et en relevant qu'on n'avait pas de recul dans ces époques-là. Et la question, c'est effectivement de savoir si aujourd'hui on a le recul et la capacité de comprendre Néandertal. Et je redoute beaucoup que, en fait, on soit à nouveau dans une autre forme de projection et qu'on n'arrive toujours pas à essayer à verbaliser ce que furent ces populations humaines, non pas par rapport à nous, mais en elles-mêmes. Et c'est vrai que ce recul-là, c'est quelque chose de d'impossible. Et puis la confrontation à l'altérité, c'est toujours quelque chose de choquant. Et donc effectivement, on a fait un Néandertalien aujourd'hui qui est un grand roi du Nord, Néandertal superstar, et qui fait finalement, qui est limité à ce que nous sommes et qui ferait tout ce que nous sommes, y compris l'art des cavernes et tout ce qu'on veut. Et je pense que toutes ces données qui se sont accumulées là sont en très grande partie des projections et des fantasmes et sont archéologiquement très fragiles, très discutables. Non pas que les éléments n'existent pas, mais que les modes d'interprétation. C'est exactement comme on disait pour les silex. Il ne s'agit pas simplement de regarder les technologies. C'est pareil pour ce qu'on peut voir sur ce qui est dit de l'art néandertalien. Je ne dis pas qu'il n'existe pas d'art néandertalien, mais tel qu'on le verbalise, on en fait un art sapiens. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on n'a toujours pas trouvé ce qu'était cet art néandertalien. Et ce qu'on a trouvé, c'est une projection de nous-mêmes. Et globalement, l'image qu'on a de Néandertal est encore aujourd'hui, à mon sens, très certainement aussi faussée aujourd'hui, en 2024, qu'elle était faussée au milieu du 19e siècle.
Et finalement, Marlène Patou-Mathis, toute dernière question pour vous. Qu'a changé finalement la découverte des Néandertaliens de notre façon de voir le monde? Est-ce que c'est d'abord et avant tout ce qu'on croit savoir de nous? Qu'a changé cette découverte à notre façon de voir le monde?
C'est-à-dire que là, on peut parler que de nous, personne, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, ça, ils sont complètement indifférents, ça n'a rien changé. Ce qui est intéressant, j'exagère. Ce qui est intéressant, c'est quand même de montrer que c'était pas si simple, parce que je crois que je reviens sur l'ADN. Ça a quand même été un changement très important. De montrer que d'un seul coup, oui, c'est quelque chose qu'on pensait impossible a été possible. Ça a quand même bouleversé. Je crois que ça a été aussi une étape importante pour le changement de regard. Mais ce que ça a changé surtout, c'est que ces différences que je reviens sur ça, que l'on met pour faire des classifications, des catégories et tout, et surtout les hiérarchisations qu'on en fait. Eh ben, c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut changer. Et là, c'est la même chose. J'en parlais à l'instant sur le fait de dire maintenant que sapiens est mieux que néandertal, pardon, est mieux.
Un excès dans l'autre sens.
Mais c'est complètement, excusez-moi, stupide. Je veux dire, parce que c'est pas ça l'intérêt. Je reviens sur ça, cette différence, cette altérité qu'on doit accepter. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui nous permet aussi d'accepter l'autre comme il l'est et pas comme on voudrait qu'il soit. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important.
Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux, Marlène Patou-Mathis, Ludovic Slimak, d'être venus nous parler de la découverte des Néandertaliens et comment ils ont changé le monde.
Homme des cavernes, dans ta grotte en béton, tu t'enfermes au milieu d'un immeuble moderne dans la ville sauvage. Et sur le roc, le sorcier ne dessine plus d'auroch, mais t'envoie dans une boîte en plastoc ta ration de mirage. Dis Cro-Magnon, quand tu prends le métro ou l'avion pour aller à la chasse au pognon, te sens-tu moins fragile? Comme ton grand-père, tu retrouves son vocabulaire quand s'approche un de tes congénères de ton automobile. Tu changes le décor et quelques accessoires. Tu as de nouveaux costumes et de nouveaux tabous.
Merci à Sophie, Catherine Gallet à la préparation de cette émission, Sam Bakiast à la réalisation et aujourd'hui c'était Élise Leu à la technique. On se quitte en musique avec Préhistoire de Joël Favreau. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.
La Terre en a vu d'autres. Et ça se croit puissant parce que ça va vite, mais à tourner en rond, tu ne fais que du vent. Et tes bombes à neutrons, guidées par satellite, c'est le tonnerre au pouvoir d'un enfant.